Question d'islam par Ghalib Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlerons de culture. De culture sur France Culture, cela va de soi, c'est facile, vous me l'accorderez. Mais j'ai un grand plaisir de recevoir Kaltoum Safi. Kaltoum Safi, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir. Je vous présente tout de suite comme une femme d'intelligence, d'esprit, une femme de lettres. Et si j'ajoute de charme, c'est pas pour faire du sexisme en creux. C'est que vous avez une carrière duale. Vous êtes à la fois journaliste, vous êtes dans le relais d'opinion, comme on dit en général, animatrice et présentatrice d'émissions télévisées, mais aussi et surtout, vous avez une carrière d'universitaire. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Ouest Nanterre. Votre domaine de prédilection est la civilisation arabe et vous êtes sociologue dans les questions qui relèvent du monde arabe et de la politique du monde arabe. Puis vous êtes aussi chercheur en islamologie et c'est ce qui nous intéresse ce matin. Alors nous parlerons ensemble de l'islam et de la culture islamique, de la culture tout court. La question culturelle en contexte islamique a son importance capitale.
Absolument. Je vous remercie de me donner l'occasion de parler de islam et culture. Vous savez qu'en ce moment et depuis un certain temps, on n'associe pas évidemment, enfin de façon claire, islam et culture. Si on parle d'islam, on n'est pas dans la culture parce que malheureusement, il y a d'autres aspects qui sont plutôt mis en valeur. Islam et culture, c'est très important aussi dans ce contexte où on parle de radicalisation, de déradicalisation, où c'est la violence qui prime, etc. Et il est important de rappeler que la culture était un facteur très, très, très important dans la civilisation arabe. C'est d'ailleurs ce qui a fait qu'on parle de civilisation arabe, arabe et arabo-musulmane. Quand on parle d'islam, généralement, on évoque facilement le texte, parfois à tort, parfois à raison. Et si on revient au texte, on va trouver que ce texte-là donne l'occasion de mettre la culture en avant à plusieurs reprises. On évoque le texte pour justifier des choses politiques, des choses pas forcément toujours bonnes. Mais si l'on veut revenir à l'islam, d'abord à son texte fondateur, on va trouver pas mal d'incitations qui privilégient la culture. Et je répète que malheureusement, ce n'est pas ça qui est mis en évidence très souvent. Mais aussi de par l'histoire, de par l'Empire, là aussi, il y a une série qu'on ne pourrait même pas citer dans cette émission tellement c'est long, de facteurs qui nous font dire que islam et culture, ce ne sont pas deux choses incompatibles et qu'il y a bel et bien une culture en relation avec l'histoire de l'islam.
Alors c'est tellement long qu'on vous le dit si bien, Kaltoum Safi, auquel cas vous reviendriez avec plaisir pour en parler. J'ai noté dans ce que vous avez dit trois points. Vous dites que l'aspect culturel, ce n'est pas ça qui est mis en valeur, ce n'est pas ça qui est mis en évidence, mais plutôt autre chose. J'ai envie de dire que l'autre chose, c'est plutôt la focalisation sur le vil, le pervers, le négatif, le maladif. Il n'y a pas à mettre en valeur la vilenie et la barbarie. Le deuxième aspect, vous avez parlé de civilisation arabe ou arabo-musulmane. Il se trouve que la langue arabe était véhiculaire aussi de cette culture ou de ces cultures au pluriel. Et le troisième point, vous avez parlé d'un texte, c'est le texte révélé, le texte coranique, mais d'aucuns parlent aussi d'un corpus de textes, si on ajoute, à tort ou à raison, la longue et lente construction du fait islamique se fondant sur d'autres textes qui seraient ou qui seront la sunna, la tradition prophétique.
Tout à fait. Je vous remercie d'avoir évoqué la langue, parce que là aussi c'est un axe très très important. Oui, fut un temps où la langue arabe était le réceptacle des cultures, pas seulement arabes. C'était la langue du savoir. des savants perses, même byzantins, il y en avait quelques-uns, et autres ont choisi la langue arabe pour s'exprimer. C'est cette langue qui a donné la possibilité d'exprimer le génie perse, les sciences, etc. Aujourd'hui, malheureusement, c'est une langue qui ne génère plus de culture, les temps ont changé.
Vous avez une explication sur ce point précis? Pourquoi est-il atrophié au niveau de la production culturelle?
Alors, bien sûr, tout ça est lié à la perception du texte, à la pratique politique aussi. Donc, plus on rétrécit, plus on limite, plus on pose des frontières pour la pensée, pour les actes des musulmans et des êtres en général, bien sûr, plus la langue en pâtit, parce que la langue, elle demeure vivante grâce aux inventions, grâce aux pratiques et grâce à la pensée. Donc, toutes ces clôtures, toutes ces frontières qu'on a mis à la pensée, à l'activité de l'homme en société ont affecté cette langue arabe. Alors, pour revenir au texte aussi, le texte du Coran comporte beaucoup de termes qui ont été empruntés à d'autres cultures, à d'autres civilisations, notamment perses. Et normalement, les musulmans, les arabo-musulmans devraient prendre l'exemple de ce texte fondamental. Alors que, chemin faisant, surtout à partir du XIIIe, XIVe siècle, au contraire, ceux qui véhiculent le pouvoir religieux, culturel, etc., ont tout fait pour couper cette langue-là des autres langues, des autres cultures qui ne sont pas proprement arabo-musulmans. Donc voilà, ça provoque un assèchement des termes de la langue, etc. Et bien sûr, quand on ne participe plus aux inventions, c'est normal que la langue devient pauvre. Et donc, et l'image aussi. Alors, quand l'image des Arabes, des musulmans en Andalousie, à Bagdad, à Dama aussi, était l'image qui encourageait le savoir, etc. Donc, c'était une langue prestigieuse, une langue vivante. Mais si aujourd'hui, l'image des Arabes, des musulmans n'est pas conforme aux aspirations universelles, cette langue-là ne va plus avoir l'attrait ni l'importance qu'elle aurait mérité. Donc, on se détourne de cette langue.
Oui.
Donc, l'image, le comportement des arabo-musulmans en partie donc a participé à cela.
La langue arabe, en dépit de cet assèchement, demeure une langue onusienne de travail à l'ONU et une langue de diplomatie. Et reste à ce qu'elle recouvre son génie civilisateur, en quelque sorte. Mais ce qui m'avait frappé le plus, c'était que le texte coranique lui-même est truffé d'emprunts lexicaux à d'autres langues, et les fondamentalistes qui racontent que Dieu parle arabe, ils parlaient aussi d'autres langues. Enfin, en réalité, si nous devions nous mettre dans ce registre-là, Dieu parle toutes les langues ou il n'en parle aucune, parce qu'il ne faut pas verser dans l'anthropomorphisme à ce point-là. Vous avez dit, et là ça m'a beaucoup intéressé, que il y aurait dans le texte fondateur des injonctions, des incitations à l'exercice culturel, à l'ouverture sur les différentes cultures. Est-ce que vous pouvez étayer par des exemples comment les premiers temps et lors de l'essor de la civilisation islamique, est-ce qu'on s'était appuyé sur le texte ou c'est tout simplement parce qu'on avait confiance en soi?
C'est peut-être les deux à la fois. Alors, quand je dis le texte est truffé d'incitations à la culture, je fais référence à tous ces passages qui parlent de ilm, savoir, de qira'a, de iqra. Vous savez que la parole inaugurale du Coran, c'est iqra, qui a plusieurs sens.
Plusieurs acceptions, mais
qui sont tous liés au savoir, à la culture. Quand je parle de culture, je fais aussi référence à ces incitations au faire, au l'a'mal. Donc, et ce fait, c'est l'action. Donc, c'est wadribou fil ard. Donc, voyager, partez.
Arpenter la terre.
Et le mouvement, c'est-à-dire, et l'ouverture aux autres. Akramoukoum indallah et atqakoum. Donc,
alors, traduisez, ma chère Keltoum, Safi, sinon je le ferai.
C'est beaucoup. Je reviendrai sur wa'malou fasayarallahu amalakoum wa rasoulouhu wal mu'minoun. Moon. Donc, ce sont les actions. Les actions, c'est-à-dire les bonnes actions. Et c'est là aussi dans son sens très, très large. C'est Dieu. Donc, vous êtes responsable de ces actes-là devant Dieu, devant le prophète Mohammed, mais aussi devant Al-Mu'minoun. Et qu'est-ce que Al-Mu'minoun aujourd'hui? Ça serait la société. Donc, c'est cet être-là, ce citoyen, si on veut utiliser des termes d'aujourd'hui, qui est certes responsable devant Dieu de ses actes, mais aussi dans la société, donc aux yeux de la société. Et dans cette action multiple, il y aurait bien sûr tout ce qui fait du bien à la société, tout ce qui fait bien à l'être, dont bien sûr les aspects de la culture dans son sens le plus large. Et puis il y a plein, je répète encore une fois que vraiment on ne pourrait pas tous les citer, mais inciter les gens à aller jusqu'au fin fond du monde pour le savoir. Mais le verset clé qu'on ne devrait peut-être pas oublier, c'est si la volonté de l'homme voudrait avoir le au-delà trône. Du trône, il l'aura. Et là, je fais la liaison avec l'action. Avec l'action, le mouvement, l'ouverture sur les autres. Donc, il y en a plein d'autres. Et tout cela sont bien sûr des incitations à la culture, au savoir, à faire du bien, etc. Malheureusement, et là aussi, je reviens encore une fois au départ, ce ne sont pas les versets qui sont mis en valeur. Ce ne sont pas les versets qu'on entendrait ici et là. Pas seulement dans les médias qui sont responsables, mais aussi dans tous les cercles qui utilise le discours religieux. Pour revenir à la culture et à cet assèchement de la langue arabe, à ses limites, à cette image qui n'est pas très 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 positive de la culture arabo-musulmane. Il y a aussi cette ritualisation, limiter l'islam à quelques rites. Vous ne savez pas, Ralb, combien je suis triste et malheureuse quand j'entends ici et là, un peu partout, parlant de la France, l'islam est limité à manger halal, faire le jihad, se couvrir, se couper donc du regard des autres. Et le dogme de l'islam va se limiter à ça. Mais ça n'a rien à voir. C'est là, je dis, où aussi certains musulmans sont responsables de cela. Je suis triste de voir des jeunes et des moins jeunes tués, égorgés froidement, sans avoir rien sur la conscience, mais refuser de manger un morceau de viande qui, en fin de compte, ne tuerait pas. Donc, toutes ces limites, voilà ce que, malheureusement, les musulmans et les non-musulmans ont fait de l'islam aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de défendre qu'il y a une culture, que le texte fondamental incite aux bonnes choses, entre autres, à la culture, et que l'islam, malheureusement, ce n'est pas seulement tous ces aspects qui extraient les musulmans du savoir, de la culture universelle de nos jours.
Oui, Kaltoum Safi, vous le dites si bien, nous sommes véritablement sidérés, qui que nous soyons d'ailleurs, devant cette régression tragique, la barbarie érigée comme art de vivre, si je puis dire, et ça me paraît oxymorique dans ma bouche. Je voudrais revenir au verset que vous avez cité, cette volonté d'aller travailler, œuvrer, c'était pour qu'on voit l'œuvre dans un contexte de croyance. C'est normal qu'on pense que c'est à Dieu le premier qui le voit et son porte-parole sur terre qui est le prophète, mais aussi le reste de la société. Mais cette œuvre-là, elle peut être artisanale, elle peut être artistique, elle peut être d'ordre intellectuel, comme elle peut être d'ordre du travail et de production. Et ça, comment se fait-il que ces gestionnaires du sacré, encore une fois, mais vous l'avez dit, enfin, nous sommes sidérés encore une fois, ce n'est pas mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est le ritualisme desséchant.
C'est parce que c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Et là, on va entrer donc dans des considérations politiques aussi. Donc, qui est responsable sur la diffusion de ce discours réducteur? D'abord, si on cherche l'uniformisation de la foi, de la société, etc., il n'y a pas plus simple que le rituel. Donc là, je vais aussi revenir à une autre question qui fait que la civilisation et la culture musulmane souffrent aujourd'hui, c'est de s'être coupée de sa tradition classique de cette période où le qadi était aussi philosophe, où l'homme de religion était aussi un homme de science. Donc toute cette culture-là...
Le cadi étant le juge.
Le juge, voilà, le juge, on dirait imam un peu aujourd'hui aussi, hein. Donc l'homme de religion était ouvert sur les sciences profanes. Et aujourd'hui, ceux qui sont responsables sur la diffusion du discours religieux, ils se basent surtout sur l'embrigadement. Ils sont outillés de quelques petits versets qui sont en rapport avec l'eschatologie, la peur, c'est tout.
Et donc, les tourments d'outre-tombe.
Voilà. etc. Oui, ce sont plusieurs facteurs qui ont fait que malheureusement ce soit ça. Et je pointe du doigt encore une fois le facteur politique. Et cela depuis des siècles. Hein. Ce n'est pas que de nos jours. Donc cette instrumentalisation, elle a été de tout temps malheureusement depuis la création de l'Empire, mais elle s'est aggravée après quand, je répète, il y a d'autres facteurs extérieurs sont aussi entrés en jeu.
Oui, Kaltoum Safi, deux aspects. Le premier, effectivement, même si ça ne nous intéresse pas directement, puisque le juge ou le cadi, pour lui donner son nom, on est dans des aspects plutôt juridiques. Mais il se trouve que le juge était un érudit, mais ouvert sur le monde et de grande culture. On dit souvent que de nos jours, ce qui a pu être prononcé sur les bords de l'Euphrate ou sur le bord de Guadalquivir, Maintenant, aucun de ces gestionnaires du sacré, puisque moi je n'ai pas d'autre nom pour les désigner, aurait été outré alors qu'à ce moment-là, ces jugements étaient plutôt empreints à la fois d'humanité, d'intelligence, et que ça profitait aux justiciables. Le second point, à vous parler à juste raison de la langue arabe, de la civilisation islamique, mais il y a aussi d'autres langues véhiculaires de la culture ou des cultures en contexte islamique, l'ourdou, le persan, le swahili, le gujarati, le turc. Et ces langues-là aussi avaient leur articulation dans l'histoire et la transmission à travers des cultures.
Absolument. Hein. C'est un point très, très important. Et c'est ce qui a fait la richesse de cette civilisation. C'est ce qui a fait que pendant un temps, la civilisation arabo-musulmane ou musulmane tout court était planétaire. C'est justement parce qu'elle était ouverte à ces enrichissements, à ces ajouts donc de ces autres cultures qui n'étaient pas au départ des terres d'islam. Donc c'était cet islam réceptacle ouvert au contraire. Et là, je dois peut-être rappeler qu'au départ, le message de Mohammed, le message Arisal al-Muhammadiyya, le message de l'islam, Mohammadien, donc était un message d'ouverture, était un message d'amélioration, ce qu'on appellerait aujourd'hui révolutionnaire. Donc c'est pour ça que toutes ces cultures, toutes ces minorités au départ, mais qui après sont devenues majoritaires, donc ont pu s'exprimer en toute liberté, ce qui n'est pas du tout le cas d'aujourd'hui. Je reviens donc sur ce point de ces érudits qui étaient avant et qui sont aujourd'hui, on est complètement dans un autre contexte. Ce que vous appelez à juste titre, et j'aime beaucoup l'appellation, ces gestionnaires du sacré, ce qu'ils ne savent pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître l'histoire, ils n'ont pas cherché à lire, à connaître, ou alors ils le savent et ils ne veulent pas le dire, parce qu'on souffre aussi de cet aspect dans les relais culturels, ne savent pas ou ne veulent pas savoir qu'avant, dans la mosquée par exemple, c'était un lieu de convivialité, c'était un lieu de rencontre. Il y avait des cercles de discussion où on discutait philosophie et voire même athéisme. Ce que peut-être beaucoup de jeunes ne savent pas, ils entendent parler de Abou Nouès et ses merveilles dans la poésie bachique, c'est-à-dire toute cette poésie sur boire du vin, etc. Peut-être ceux qui ne savent pas que Abou Nouès, je répète, donc ce grand poète qui a chanté les jouissances de la vie, hein, et qui qui a fini sa vie en tant que mystique, on va dire. Il y a eu une très très grande polémique qui était entre lui, entre Abou Nouès et un grand cadi, un grand alim, un grand jurisconsulte, Al-Imam An-Nazam, il s'appelle. C'est un mu'tazilite. Et ceux qui connaissent la culture arabe connaissent un poème très 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 connu, Da'anka laumi fa inna al-lauma aghra'u. Et ils ne savent peut-être pas que ce poème-là était dit dans une discussion avec ce jurisconsulte, donc, qui lui disait, mais non, mais arrêtez de boire du vin, c'est pas bien, etc. Et il lui a dit, oh non, ce n'est pas la peine de me faire la morale, si je peux traduire ainsi.
Enfin, en réalité, cesse de me blâmer parce que ces reproches m'incitent.
Voilà.
Et l'antidote serait d'en reprendre davantage.
Donc, un poème, si quelqu'un le dit aujourd'hui, il serait, dans certains pays musulmans, lapidé en public. Il l'a dit à ce cadi et rien s'est passé. Et Abou Nouès est mort tranquillement dans son lit. Il n'a pas été égorgé. C'est dire combien religieux, profanes, politiques, philosophiques vivaient, cohabitaient très très bien. Il y avait un niveau très très élevé de débat qui est malheureusement complètement absent depuis des décennies dans le monde musulman.
Bien, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, c'est avec Kaltoum Safi, maître de conférence à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Kaltoum Safi est spécialiste de la civilisation arabe et de la sociologie politique du monde arabe, mais surtout en sa qualité de chercheur en islamologie, que nous avons le plaisir de l'avoir ce matin, et nous parlons de la question culturelle en contexte islamique. Kaltoum Safi, vous avez donc abordé la poésie bachique, l'hédonisme, ces approches épicuriennes en contexte islamique. Et à ce moment-là, les uns et les autres, dans leur discussion, dans leur conversation, dans certains cas dans leur controverse, eh bien, défendaient le droit à la jouissance et au plaisir.
Absolument. Et d'ailleurs, on revient toujours à ces raccourcis, etc. Et le fait de penser et de véhiculer l'image d'un islam qui a toujours été ritualisé, comme si les gens ne sortaient pas de la mosquée, comme s'il y avait toujours des guillotines dans les places publiques. L'histoire n'était pas comme ça. C'était des sociétés à peu près comme les sociétés d'aujourd'hui, avec des phénomènes très très semblables en leur temps. Et donc la société musulmane vivait aussi de culture, de choses qui étaient permises, d'autres qui étaient moins permises, et il y avait une richesse, il y avait des controverses, il y avait des discussions, il y avait des gens qui défendaient ce qu'on appellerait aujourd'hui les libertés publiques et individuelles, d'autres qui étaient contre, et toute l'histoire est faite de ce genre d'épisodes. Aujourd'hui, l'image qu'on véhicule, comme si l'islam a toujours été cet islam bédouin où les gens en abaya étaient là, assis à manger ensemble, à voyager sur des chameaux et à réciter le Coran du matin au soir et à chercher à faire justice en appliquant la charia, etc. Là aussi, ce sont des images, des représentations de l'islam qui sont pas toujours vraies. Et malheureusement, qui limite en fin de compte cette portée civilisatrice, cette portée culturelle de la société musulmane, même ancienne. Et je reviens encore une fois à l'éducation. Donc, si on continue aujourd'hui dans les programmes culturels, dans les programmes d'éducation, hein, dans les productions culturelles, dans tout ce qui est production d'images, on continue à montrer cette image de cet islam qui est cet islam de gloire parce qu'il faisait des conquêtes et parce qu'il tuait et parce qu'il imposait aux gens des règles qui n'étaient pas au départ les leurs, c'est complètement faux. Et malheureusement, ça contribue à l'image que nous connaissons aujourd'hui.
Là, vous parlez du contexte islamique et du monde arabe.
Du monde arabe, en général. Du monde arabe et pas seulement, hein, cette histoire d'image. Je vais m'arrêter un petit peu sur cette histoire d'image. Les productions TV, on parle du monde arabe, mais vous savez qu'avec la télé satellite, donc ça va être ici en Europe, dans les communautés musulmanes un peu partout. Donc ce n'est plus un problème de pays arabes, c'est un problème des musulmans là où ils sont, parce qu'on a changé de contexte. On continue, alors toutes les productions d'images qui sont liées à l'islam, à la culture musulmane, à l'histoire islamique, on va voir toujours ces califes dictateurs, ces grands chefs guerriers très 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 violents, très, et cela d'année en année en année. Donc alors que tout l'aspect que j'évoquais tout à l'heure de cette société multiple, riche, diversifiée, etc., n'est pas du tout mis en scène. Donc on continue par cette production qui est largement diffusée. Aujourd'hui, Internet, elle n'améliore pas les choses. Donc, on continue à faire croire aux gens que l'image de l'islam, elle a toujours été comme ça. C'est ça l'islam. Et donc, on limite à cette, malheureusement, à cette image qui est pleine de violence et d'hostilité à l'autre. Donc moi je fais partie de ces chercheurs qui n'ont pas peur de critiquer l'histoire et les pratiques. Je défends la culture musulmane, je défends les textes et je défends le message surtout, mais les pratiques, il faut pas les glorifier. Là où il y a des pratiques qui font mal à cette culture, au contraire, il faut les critiquer, il faut les dénoncer, et c'est ce que je fais en tant que chercheur. Donc je finis ce point en parlant de cette image de l'islam guerrier, de l'islam glorifié parce qu'il a tué, parce qu'il a fait couler du sang. J'espère qu'avec l'horreur de Daesh qu'on vit aujourd'hui, c'est une horreur, on ne trouve pas assez de mots pour la condamner, hein, et pour dire notre effroi et notre ahurissement de ces agissements. J'espère qu'elle servirait aux générations futures de savoir que Al-Khilafa, le califat, tant glorifié, voilà ce qu'il va donner dans les temps modernes. Et que c'est un modèle, avec la barbarie qu'il a montré, qui n'est plus, il faut plus rêver de cet islam. Au contraire, il faut mettre en valeur l'autre aspect, une autre image qui existe. Et on vient à ce que vous venez de dire, ce que j'essaie de relayer, c'est qu'il y a assez d'aspects à creuser, à mettre en avant plutôt que cette image de Khilafa glorifiée.
Alors Khilafa, c'est l'appellation arabe du califat. Le califat n'a aucune valeur sacrale et on l'a vu là avec cette monstruosité idéologique et religieuse qu'est Daesh, un acronyme. Pour la première fois, la langue arabe s'apprête à un acronyme qui n'a pas de sens mais qui rime avec Fahesh, qui veut dire pervers. Vous avez dit, moi, comme chercheur, je dénonce, ben oui, pardonnez-moi, Kaltoum Safi, la probité intellectuelle, la rigueur académique, doivent les deux pousser à ce que les chercheurs réprouvent le répréhensible, dénoncent ce qui y est condamnable, et promeuvent, comme vous faites aussi, les aspects méconnus. Et ce que nous faisons ce matin, pour parler de la culture ou des cultures, en tout cas en contexte islamique. Vous parlez d'image, ce code iconique, d'icône qu'on a de l'islam qui est réduite à la violence. Et pourquoi alors il y a eu tant de tracasseries, d'idiotie, d'argutie et d'impéritie d'analyse de la part, alors je ne dis plus gestionnaire du sacré, mais je dirais des gardiens de l'orthodoxie et des autres à propos de l'image, alors que les miniatures persanes, alors que la représentation figurée et figurative ont fait partie de la culture et de la civilisation islamique.
Absolument. Il y a lieu de se poser cette question. Là, je vais faire appel à mon côté chercheur en sociologie politique. Donc là, entre en jeu malheureusement le facteur politique. Parce que depuis les années 70, on va dire, l'argent qui va aider à produire tout ce qui se rapporte à l'islam, à l'image de l'islam, malheureusement, il vient d'une région du monde musulman qui a une autre image qui veut faire véhiculer et qui va servir dans le conflit, dans le schisme musulman, dans le conflit sunnite-chiite. Donc, c'est cet argent-là qui va essayer de mettre en scène une image rigoriste de l'islam, une image qui se base énormément sur la violence, faire peur, sur les limiter tout, empêcher tout ce qui donne de la créativité. Et vous le savez en tant que spécialiste, vous aussi, de l'islam, que l'islam, l'orthodoxie, a toujours été habitée par cette peur des bidards, des innovations, qui sont toujours vues comme quelque chose de blâmable. Pourquoi ? Parce que ça va être quelque chose qui va être contre l'unité de la Ummah. Donc, ce sont les tenants de cette façon de... Au départ, c'était une secte, hein. Puis après, c'est devenu un des islams contemporains. Donc, qui se sont emparés de cet outil fantastique qui est l'image pour essayer justement d'encourager ces productions qui se rapportent à l'islam et qui malheureusement, donc, vont mettre en avant cette image, cette histoire qui se base énormément sur la violence de l'islam. Et je vais revenir à votre intervention sur oui, les chercheurs doivent dénoncer, etc. Malheureusement, ce n'est pas évident. Hein. Ça devrait être la norme, mais ce n'est pas évident. Et la pensée islamique et arabo-islamique a longtemps souffert de cette approche apologétique. Donc, même ceux qui, au départ, voulaient moderniser la pensée islamique, moderniser la société musulmane en faisant de nouvelles lectures de l'islam, des textes fondamentaux, sont tombés dans cette apologétique. Donc, l'apologétique, la volonté d'être protectionniste, si vous voulez, de l'islam, vouloir toujours protéger l'islam, donc, et vouloir garder cette image féerique de foi meilleure que les autres, de civilisation irréprochable, ont inhibé pas mal de chercheurs et pas mal d'écrivains, de dénoncer ce qui n'est plus valable dans nos temps d'aujourd'hui. Et malheureusement, encore une fois, je le dis, la bibliothèque arabe est pleine de livres qui ne font que de l'apologétique. Des livres qui ne se donnent pas à l'approche critique, à l'approche constructive, mais aussi à la déconstruction de tout ce qui va nuire aujourd'hui à l'image de l'islam et même à son avenir. Parce que vous allez voir que tout ce qui se passe depuis 5 ans, même avant, mais surtout les 5 dernières années, vont énormément entacher, si vous voulez, l'image de l'islam et son avenir.
Bien. Keltoum Safi, mon souci scrupuleux de vous laisser vous exprimer jusqu'au bout sans vouloir vous interrompre, me laisse en retard de 3 sous-questions, en quelque sorte. Allez, pas nécessairement dans l'ordre. Vous avez raison de souligner que l'apologie défensive est le plus souvent une attitude mièvre et enfantine. Et on dit souvent que l'apologétique est un système qui montre très vite ses limites. Le deuxième point, c'est à propos de cette fameuse secte. Moi, je la nommerai, et nous la nommons en tout cas cette émission, il s'agit du wahhabisme, hélas, qui a occasionné beaucoup de tort à la tradition et à la civilisation islamique, et je mettrai un S à islamique. Et cette région du monde, c'est celle du Moyen-Orient, de la péninsule arabique et de l'actuel royaume d'Arabie Saoudite. Il faudrait nommer les choses. Le dernier point, vous avez dit que je suis un spécialiste de l'islam. L'anecdote classique veut que le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien par définition. Donc je ne suis pas comme vous qui avez une vision globale et panoptique des faits. Alors, voulez-vous, s'il vous plaît, à moins que nous passions à autre chose, revenir à la question de l'image, à la question de pourquoi être recroquevillé, crispé sur la représentation, et pourtant elle a existé, et de la manière la plus belle, une beauté plastique, artistique, dans les ateliers de Tabriz, d'Ispahan et ailleurs.
Qu'on détruit aujourd'hui, malheureusement.
C'est que ça produit des monstres. Le sommeil de la raison produit des monstres. On est dans la folie réelle. Passons peut-être à la musique. Si vous pouviez nous dire quelques mots. Par exemple, ah ouais. De Ziryab.
Ziryab, ah oui, le grand Ziryab, qui a quitté Bagdad et qui a fait en Andalousie des miracles hein, dans ce domaine-là. D'ailleurs, Ziryab était un grand musicologue, comme on appellerait aujourd'hui, mais pas seulement. C'est le premier qui a pensé à créer des conservatoires de musique, des écoles de musique. Quand on aura en Europe, on n'en entendait pas parler. Ça n'existait pas.
Oui.
Donc au 10e, 11e siècle...
Avec ses enfants.
Exactement.
Enfin, il est né en réalité en 789, donc on va dire au dernier quart du 8e siècle.
Voilà.
Et il est mort en 855, donc on est en milieu du 9e siècle.
Voilà. Plutôt, oui. Merci pour
l'accord.
Non,
je vous en prie.
Non, mais j'étais emportée par l'image de ce Ziryab qui n'est pas forcément connu de nos jeunes qui croient que la seule musique qu'on a, c'est psalmodier des versets. Psalmodier des versets, c'est magnifique. C'est pour l'esprit, pour l'âme. Mais oui, on était producteurs et pionniers dans la production musicale. Je reviens à Ziryab. Je rappelle encore une fois qu'il était le premier à penser à créer des écoles, ce qu'on appelle des conservatoires aujourd'hui, mais c'était celui qui s'est mis à développer les instruments de musique, donc dont beaucoup existent aujourd'hui dans les, en tout cas le principe primaire dans les orchestres philharmoniques un peu partout aujourd'hui.
Et la geste de Roland a été mise en musique sur des instruments fourni par Ziryab, conçu par Ziryab.
Combien de personnes sont au courant de cela? Malheureusement, on ne le sait pas. Donc la musique, le chant, la poésie, et les Arabes au moins pour cela, ils sont largement connus que ce sont de grands maîtres, mais aussi la danse. La danse, quand on dit danse, c'est le corps. Donc, quand on voit aujourd'hui quelle conception du corps les sociétés musulmanes ont, le corps est toujours bon à châtier. Il n'est mentionné que pour être couvert ou châtié. Donc, déjà au 8e siècle, on célébrait le corps à travers la danse, etc. Pourquoi tout cela n'est pas mis en image aujourd'hui? Je pourrais apporter un élément d'explication. Quand on n'est pas conscient de quelque chose, quand on ne sait pas cette histoire-là, on va pas penser à la mettre en image. Donc, je répète, quand on a trop longtemps mis en avant l'image, et d'ailleurs pas seulement par les musulmans, hein, donc par les orientalistes et avant eux beaucoup d'autres. Donc, quand l'image qui est mise en avant, c'est l'image de l'islam conquérant, de l'islam guerrier, de héroïque par le sabre, etc. Quand c'est cette image-là qui est peut-être, on peut expliquer, mise aujourd'hui en avant pour contrecarrer l'impérialisme et le colonialisme et la violence occidentale, et qu'on oublie tout le reste, on va pas bien sûr le mettre en image. Ou alors de façon sporadique, insignifiante. Et aussi, si dans les programmes d'éducation, on n'a pas, donc les élèves, quand on n'apprend pas cette histoire-là, quand ils ne connaissent pas Ziryab, mais qu'ils connaissent Tariq ibn Ziyad, qui a tué je ne sais pas combien, il a fait de bonnes choses peut-être, mais c'est quelqu'un qui a fait couler beaucoup de sang, pas seulement lui, hein, pas mal de grands noms qui sont même sacrés en islam, quand ce sont ces noms-là qu'on met en valeur, mais non pas Ziryab ou Ibn Rushd que les musulmans ont redécouvert après qu'il ait été découvert.
La Véroès des latins.
Voilà,
donc c'est la Véroès.
Oui. Ibn Khaldoun, qui n'a été connu dans le monde musulman qu'au XXe siècle, après que les Occidentaux ont découvert en lui le premier sociologue. Donc, quand dans l'éducation, on n'apprend pas aux jeunes, voilà leur histoire, et qu'on apprend que l'aspect qui n'est pas forcément, qui ne véhicule pas une image respectueuse de la culture, l'image va être pareille.
Bien, Kaltoum Safi, je vous promets que nous essaierons en tout cas de consacrer des émissions ad hoc aussi bien à Ziryab, le musicien musicologue, qu'Averroès et Ibn Khaldoun. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Kaltoum Safi, maître de conférence à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Je ne dis pas, après avoir dit tout à l'heure, que le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien, que vous êtes spécialiste de la civilisation arabe. En tout cas, vous êtes chercheur en islamologie et aussi votre domaine d'intérêt, en dehors de l'islamologie, c'est la sociologie politique du monde arabe, et qui dit monde arabe ne dit pas nécessairement monde islamique. Je ferai la transition par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait d'avoir célébré le corps ondoyant, lascif, flatter les sens, et ça c'était une culture du plaisir et du raffinement. Et les musulmans, même si l'article laid est toujours problématique, ne sortiraient de l'ornière que lorsqu'ils renoueraient avec le raffinement, le plaisir et la culture qui flatte les sens. On a parlé de musique très peu. Parlant, vous avez vous-même évoqué la danse et vous avez raison. Parlons aussi d'autres types d'art ou d'autres types de culture, l'art culinaire, la gastronomie, finir les repas par le sucré, le dessert, par exemple.
Avant la Renaissance, absolument. Ça, c'était pratiqué. Donc, je reviens à l'Andalousie parce que c'est l'exemple le plus récent. Avant que la Renaissance passe aussi par ce genre de savoir-faire en Europe. Alors, je reviens encore une fois à ce qui a fait que l'art de la table, donc la cuisine, soit fluorescent, si vous voulez, c'est aussi parce que c'était des sociétés multiethniques qui étaient ouvertes aux autres cultures. Donc aujourd'hui, tout ce qui est connu dans le monde comme saveur de cannelle, comme de saveur de cumin, comme utilisation des fruits secs, tout cela était pour la première fois pratiqué en Andalousie et ensuite il est parti pour les autres coins du monde. Recevoir, et là les Arabes ont la culture de la générosité, de savoir recevoir, mais aussi tout ce qui est raffinement de la table, les étoffes aussi, hein, la cuisine, mais aussi utiliser l'étoffe pour l'apparat, pas seulement pour se couvrir, hein, pour l'apparat, là aussi c'était un art musulman. Et d'ailleurs, il y a des chapitres sur l'art textile, sur l'art de la cuisine, les saveurs, le sucré, le salé, etc. Mais aussi tout ce qui est textile, soie, brocart, enfin tout ce que l'Europe va découvrir après comme chose précieuse.
Oui, et on dit que Roger II de la dynastie d'Hauteville, le roi de Sicile, le jour de son sacre portait un manteau graffié en lettres d'or, et c'était de la poésie arabe louant abondamment le roi. Je dis ça en passant. Avez-vous, cher Kaltoum Safi, d'autres domaines? Parce que là, on fait une focalisation sur la calligraphie, étymologiquement la graphie belle, ouais. Ou peut-être l'architecture dite islamique avec les ornements végétaux. Mais en réalité, il y avait aussi, il suffit de voir la cour de l'Alhambra pour voir qu'il y a une sculpture.
Absolument.
Ailleurs aussi. Depuis quand dateriez-vous le déclin ou la décadence? Et si vous pouviez donner quelques aspects ou quelques raisons de ce début de régression?
D'accord. J'ajouterai à ce que vous avez dit sur la calligraphie. C'est vrai que les Arabes ont excellé dans la calligraphie. Et juste pour rappeler qu'on peut faire un produit culturel qui est universel aujourd'hui, qui est prisé et adoré un peu partout, mais l'origine, c'est le texte. C'est al-harf, c'est la lettre arabe qui est glorifiée artistiquement. Elle n'est pas glorifiée que par le sabre, elle est glorifiée artistiquement.
Et qui donne lieu à des calligrammes, c'est-à-dire des figures, des colombes, des tigres.
Effectivement, des chefs-d'œuvre, donc une figuration. Donc il y a eu pour l'architecture, c'est vrai qu'elle est très connue par les ornements, mais pas seulement, hein, par la science. C'était basé sur un savoir scientifique, sur une maîtrise de la physique, de la chimie, et tout ce qui est jardin et agronomie, etc. Donc, il y avait des sciences qui entraient en considération et pas seulement l'art, comme il est connu aujourd'hui, l'art islamique, c'est les ornements, etc. Alors, l'autre, pourquoi il y a eu toutes ces clôtures, pourquoi aujourd'hui tout est réduit à une image qui ne nous ressemble pas, au fait, qui ne ressemble pas réellement à cette culture au départ. C'est parce que la culture islamique, la civilisation, la pensée a subi plusieurs clôtures, plusieurs fermetures qui remontent donc au XIVe siècle, si c'est pas avant. Là où, à un certain moment, les grandes écoles du fiqh, le droit musulman, ont décidé de fermer l'ijtihad, qui est tout effort d'interprétation du texte. Donc, on a dit, tout est dans les livres aujourd'hui, tout, on a pensé, nos ancêtres ont pensé à tout, et voilà, on va reproduire. Et toute reproduction est limitatrice, comme vous le savez. Donc, on a dit, voilà, ne faites plus d'efforts, il faut plus penser, pour revenir, et d'ailleurs, ça c'est très c'est un peu spécial la civilisation musulmane. Pour mieux avancer, il faut revenir en arrière. Donc, pour penser le futur, il faut revenir au salaf, c'est-à-dire aux ancêtres, aux pionniers, donc de tout le savoir religieux
et les pieux anciens.
Les pieux anciens, donc. Et qui étaient formidables pour leur temps, hein, et qui ont fait des avancées pour leur temps louables par ailleurs, hein. Mais c'est-à-dire envisager le futur en revenant vers les débuts, ce n'est pas toujours, ça va pas nous aider à produire une image universelle, en tout cas à s'intégrer dans l'universel. Donc pourquoi, voilà, c'était des clôtures de ce genre et toute la bataille contre les philosophes. Donc la clôture du ijtihad, donc de cet effort de pensée, qui dit pensée dit rationalisme. Donc, plus d'efforts rationnels, mais aussi cette haine donc à la philosophie et à toute liberté d'esprit. Ce sont deux facteurs qui ont lourdement affecté la pratique et l'image et la culture musulmane depuis longtemps. Et aujourd'hui, ça s'aggrave par cet aspect violent des choses.
Pardonnez-moi, Keltoum Safi, je reviens sur la clôture ou la fermeture des portes de l'ijtihad, mot arabe qui veut dire effort intellectuel, cérébral, mental. Alors, d'aucuns disent qu'on n'a pas de date, on ne sait pas qui a décidé, etc., mais que les choses se sont faites comme ça. J'en veux pour référence l'article de Joseph Chart dans Studia Islamica, intitulé « Petite genèse d'une grande fiction ». C'est-à-dire qu'on avait beau chercher pour trouver quelle est l'autorité religieuse ou politique qui a décrété la fameuse fermeture. C'est que les choses, et on n'en avait pas trouvé, c'est que les choses se sont faites comme ça, après avoir considéré que les sciences dites rationnelles sont intruses au corpus religieux comme tel. Nous approchons du terme de l'émission et j'aurais voulu avec vous, Keltoum Safi, revenir sur d'autres aspects de la culture islamique ou des cultures en contexte islamique. Par exemple, les noces et le plaisir qu'il y a à célébrer des mariages, parce que vous avez évoqué vous-même les costumes, les habits, ah oui, les parements, les étoffes. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que nous n'avons pas, d'une manière très sommaire, abordé au moment de cette émission?
Il y en a certainement. Hein. Je ne pourrais pas me rappeler de tout, mais il y a plein. Je rappelle que le Coran est jalonné d'incitations aux beaux gestes, à la belle parole, etc. Vous avez évoqué les noces. Oui, et d'ailleurs là, il y a un autre, au départ, une tradition. Hein, tout ce qui est hadaya, tout ce qui est cadeau, tout ce qui est offrande. Vous direz que ça existait avant l'islam, etc. Mais ça a été quand même gardé en tant que habitude ou en tant que geste qui aiderait à la fraternité, à l'ouverture vers l'autre, à la générosité. En plus, les noces, tout ce qui est public, tout ce qui est fêté en public est aussi encouragé dans la tradition musulmane, al-ishhar, donc
célébrer.
Célébrer, donc inciter à la célébration, à la joie aussi, hein, à la joie de vivre. Encore une fois, ce sont malheureusement des traditions ou alors des comportements qui n'ont pas été mis en valeur. Alors, j'ajouterai un petit élément à cette histoire de clôture.
Je vous en prie.
Vous l'avez parfaitement expliqué que ce n'était pas un mot d'ordre donné par une autorité. Mais c'est ce que, enfin, si on revient un petit peu à l'histoire, on essaie de comprendre, c'est ce qui se passe un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui non plus, il n'y a pas une autorité, il n'y a pas un geste inaugural qui a dit aux musulmans, voilà, l'islam est désormais rituel, il se limite à l'ijtihad, à la burqa, au voile, au halal, et le reste, ça n'existe pas. Aujourd'hui aussi, il n'y a pas un mot d'ordre qui est comme ça. Mais les choses s'installent justement par petits événements, par petits gestes.
Insidieusement,
c'est à travers un imam ici, quelqu'un qui va prêcher là-bas, les cercles religieux, et de bouche à oreille, ou alors ça devient une pratique. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire de l'islam. Un autre élément, alors parmi les derniers hommes religieux ou penseurs, ou alors ceux qui ont appelé, revendiqué l'ijtihad, il y a le fameux Ibn Taymiyyah, qui aujourd'hui impacte, selon le mot médiatique, malheureusement souvent négativement la pensée islamique ou même islamiste aujourd'hui. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que la pensée d'Ibn Taymiyyah, qui est
mort en 1326 ou 28.
Voilà, donc on est dans le 14e siècle et on est presque vers ce seuil de fermeture de l'ijtihad. Donc, ce que les gens, ils glorifient la pensée de Ibn Taymiyyah, mais ce qu'ils oublient, c'est que la pensée d'Ibn Taymiyyah est venue dans des conditions qui ressemblent énormément à nos situations aujourd'hui. Alors, Ibn Taymiyyah a professé ses fatwas très très qui véhicule, je le dis franchement, la haine vers l'autre, la haine vers le non-musulman, une limitation atroce. Il l'a fait quand Bagdad venait d'être saccagé par les Mongols. Donc là où l'invasion mongole, si vous voulez, est ressentie comme une invasion, comment dirait, impérialiste d'aujourd'hui, oui, comme un colonialisme, etc. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons à Bagdad de nouveau, c'est ce que nous voyons à Mossoul, c'est ce que nous voyons en Syrie. Ou
malheureusement à Palmyre qui
a été saccagé. Oui. Et voilà pourquoi aujourd'hui Ibn Taymiyyah est cité et même glorifié beaucoup plus que Averroès ou Ibn Khaldoun ou Abu Nouès.
Mais vous avez raison, Kaltoum Safi, vous avez évoqué Ibn Taymiyyah et cette haine à propos de l'altérité, parce qu'il y avait aussi sa fameuse épître contre les Tatars. Il était dans une mentalité obsidionale. Il avait peur d'être assiégé de partout. Et c'est ce qui se passe aussi maintenant. Il faudrait savoir s'en sortir. Alors, nous arrivons au terme de notre émission. J'avais encore d'autres questions à vous poser, mais si vous nous promettez de revenir, nous les poursuivrons ensemble.
Avec plaisir.
Nous étions avec Kaltoum Safi, maître de conférence à l'Université Paris-Ouest Nanterre, chargé des questions islamologiques, de la civilisation arabe, de la sociologie politique du monde arabe, avec aussi une carrière de journaliste et de présentatrice de télévision. Elle sait très bien relayer les opinions. C'était question d'islam et vous retrouverez, chers amis auditeurs, les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée par Olivier Dupré et la réalisation a été aussi assumée par notre amie Doria Zénine.